Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle interview de Team Manager et nous allons aller du côté de Oka avec Julien Chaurier. Julien, salut.
Ouais, bonjour Hugo.
Alors, Julien, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ton rôle de Team Manager pour Oka? Parce qu'on interviewe plusieurs marques et tout le monde ne fait pas exactement la même chose à chaque fois qu'on dit Team Manager. Voilà, il y en a, ils font très très peu de choses, il y en a, ils en font beaucoup. Est-ce que tu peux nous cadrer un petit peu ton rôle et puis nous dire depuis combien de temps tu le tiens?
Eh ben, la première chose, c'est que je ne suis pas team manager, donc pour
Ah.
simplifier un peu les choses. Non, le rôle est plus sur la coordination du team. Donc, en fait, le vrai team manager a un rôle vraiment central et il est basé à Londres pour toute l'Europe et il gère les trois disciplines, trail, triathlon. Et moi, je suis présent pour coordonner la partie trail sur l'Europe, donc faire le lien avec lui, la marque Oka et les athlètes sur le terrain.
Ah oui, donc toi, tu t'adresses aux athlètes européens, pas seulement français.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, dans les athlètes européens, c'est majoritairement des athlètes français.
Oui, après, t'ajoutes quoi deux Suisses, et puis.
Oui, il y a un ou deux Espagnols, pareil en Italie, Pays-Bas. Enfin bon, il y a en gros, ça rajoute une quinzaine d'athlètes. Ouais.
Et tu fais ça depuis quand, Julien? Je crois que t'as pas mal d'ancienneté.
Ouais, en fait, c'est justement mon rôle a évolué là-dessus, mais ça fait maintenant une petite dizaine d'années.
Alors, quand tu dis que ton rôle a évolué, aujourd'hui tu nous parles coordinateur, par exemple, c'est toi qui gères. Donc là, tu es allé avec Manon Boire à la Translanto. Est-ce que c'est toi qui as géré les réservations, les logements, les trucs comme ça?
Et ben justement, ça fait partie des choses que je ne fais pas pour la plupart des événements. Donc, je vais faciliter les choses sur les événements où je suis présent ou que je connais, mais on n'a pas de rôle de réservation, si ce n'est pour quelques gros événements, dont l'UTMB, où plusieurs chalets sont réservés pour les athlètes, pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc, voilà, mon rôle n'est pas sur le quotidien des événements. Là, j'ai notamment organisé cet été un grand training camp sur Val Thorens. Donc là-dessus, c'est j'ai proposé un planning, j'ai proposé des prestataires, mais derrière, la mise en place opérationnelle est différente, directement faite par Oka.
D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que cette année, à Valto, j'ai suivi notamment la prépa de Jean-Philippe Tchoumi et Thibaut Garivier. Et puis après, vous étiez un peu plus nombreux, vous étiez aussi allé voir le Tour de France, c'était assez agréable.
Ouais, c'est des moments vraiment sympas et qui, pour moi, sont la clé de la création d'un team. C'est ce côté un peu communautaire de passer du temps ensemble. Et c'est plus sympa de s'entraîner à plusieurs que chacun de son côté.
Ah, puis on avait vu après que Thibaut et Jean-Philippe, ils ont fait un bon bout ensemble sur l'UTMB, donc c'était pas déconnant.
Non, tout à fait.
Ok, ouais. Et toi, t'es en place depuis combien de temps, Julien, pour nous donner un peu un aperçu
Chez Oka?
Ouais.
Bah là, moi, ça fait maintenant, toc, 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 toc. Bah, ça fait ma 10e année en fait chez Oka. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que coordination, ça doit faire 6-7 ans. Ouais. Ça me fait revenir sur les chiffres. Donc voilà.
Ouais, ok. Donc t'as vu un peu comme tout le monde quoi l'explosion des budgets parce que en 2014 bro, c'était un peu léger et puis aujourd'hui il y a quand même des vrais jolis contrats.
Il y a l'évolution, l'explosion des budgets, l'évolution, l'explosion du sport, des marques qui ont énormément évolué parce qu'au départ, Oka, c'était la marque d'Annecy où tous les bureaux et tous les salariés étaient présents dans un bureau à Annecy. Maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas.
Ah
Donc,
oui.
c'est l'évolution du sport, c'est une évolution des marques, c'est une évolution des contrats, de la professionnalisation. Tout a beaucoup évolué, c'est vrai, en une dizaine d'années. Ouais.
Eh ben allez, allons-y un peu pour voir tout ça. Alors, sur les évolutions, justement, depuis ton arrivée un peu en tant que coordinateur, qu'est-ce qui t'a marqué comme évolution? Qu'est-ce que tu fais un peu plus aujourd'hui que tu faisais moins avant? Qu'est-ce qui s'est ajouté peut-être surtout?
Une grosse nouveauté depuis quelques années, je ne vais pas dire c'est bien, pas bien, c'est l'arrivée d'agents dans le trail.
Ah ouais?
Donc, d'athlètes qui ne gèrent pas du tout leurs relations contractuelles. Donc, heureusement, ça, j'allais dire heureusement, non, c'est l'évolution du sport. Mais c'est vrai que ça rend la relation un peu spéciale, surtout sur du recrutement, parce que les échanges se font avec un agent et non avec un athlète. Donc, voir si on partage les mêmes valeurs, c'est un peu plus compliqué.
Ah
Donc,
oui,
pour moi, c'est.
effectivement. Mais c'est automatique ou non? C'est pas tout le monde.
Non, non, ça reste une minorité, mais sur les, on va dire, une grande partie des top athlètes, ça fonctionne de cette manière-là. Mais ce que je trouve un peu dommage, il devrait y avoir des échanges de personnes et après, quand ça parle budget, que ça discute entre un comptable, un avocat d'un côté, un agent, c'est très bien. Il faudrait faire la chose à deux niveaux et pas tout de suite commencer à échanger avec des avocats, quoi.
Hey, c'est un petit peu étrange. Ouais. Ok, donc toi, tu as été confronté à ça. Ça, c'est le plus gros changement.
C'est le plus gros changement, oui, avec des contrats. Je pense que normalement, les gros contrats d'il y a 15 ans et les gros contrats de maintenant, il y a quand même une inflation assez sérieuse. Je pense que les contrats, ouais, il y a une multiplication par 10, hein, je pense quasiment.
Ouais, c'est ce
Donc,
que j'allais te demander, si on pouvait donner un peu des chiffres et
ouais, je
tout. Bah,
pense que leur demandeur,
ça parle, ouais.
il y a 15 ans, des bons athlètes nationaux, internationaux étaient à 10 000 euros et maintenant, les meilleurs athlètes internationaux. Je pense que ça se rapproche pour certains des 100 000, quoi.
Oui, bien sûr. C'est un peu ce que j'avais en tête aussi.
Pour certains, c'est même plus, quoi. Pas forcément chez Oka d'ailleurs, mais.
Ouais, on a d'autres marques. Il y a Adidas, North Face. Bon, ça paye un peu, Salomon. Ouais, ça...
Ouais, On, il y a.
On,
Voilà, il y a.
ouais. Ok, alors question pour toi, Julien, en plus, qui a tout vu, qui a tout fait. La meilleure question de l'interview, on commence direct avec celle-là. Qu'est-ce qu'un team?
Et c'est vrai que la définition du team en fonction des marques, elle est complètement différente. Donc, d'un côté, c'est vraiment une équipe qui est vraiment gérée, qui est tout le temps ensemble sur les événements, qui va s'entraîner ensemble, qui va concourir ensemble, équipée de la même couleur et du même produit. Et à l'opposé, pour certaines marques, c'est plus une identité, des calendriers qui sont spécifiques à chacun. Et voilà, juste une identité, on va dire, matérielle. Et donc, c'est moins de relations d'équipe. Donc, en fait, je pense qu'il y a les deux. Nous, dans le team, on se situe à l'intermédiaire, je pense, entre les deux, parce qu'on n'est pas toujours tous ensemble, mais on essaye de créer justement une dynamique d'équipe où on se retrouve de manière ponctuelle sur des événements et sur la préparation.
Ouais, effectivement, on voit souvent, il y a beaucoup d'athlètes. C'est souvent des petits regroupements, 2, 3, 4. Bon, ça se fait avec le lieu géographique, j'imagine.
Bah,
Ça
tout à
change.
fait. Et surtout, la volonté qu'il y a eu jusqu'à présent de Oka, c'était avoir des athlètes sur presque toutes les distances. Donc, entre un athlète qui fait de la course en montagne ou du kilomètre vertical et un athlète qui prépare un UTMB, c'est difficile de se retrouver sur les mêmes courses de préparation, sur les mêmes phases d'entraînement, sur les mêmes séances. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est compliqué de retrouver tout le monde au même endroit.
Ouais, et puis après, tu rajoutes encore la volonté internationale du truc et t'éclates encore plus le team, quoi.
Tout à fait.
Ok, est-ce que tu dégagerais d'autres idées pour la définition d'un team?
Ouais, après, ça reste, je pense, une belle dynamique. Après, même en course, hein, de retrouver des collègues, ça, je pense que ça met cette petite implication physique, mentale un peu plus importante pour s'accrocher à un copain ou quand on se fait rattraper par un copain, d'essayer de rester avec lui ou de le relancer, ce qu'on ferait peut-être un petit peu moins avec quelqu'un d'autre et encore que, quoi, moi, depuis que je cours, c'est vrai que je me suis rarement arrêté à la couleur du maillot quand je rattrapais ou je me faisais rattraper par quelqu'un. Donc en course, c'est vrai que ça change pas énormément, même si ça, les affinités, elles sont plus créées par les personnes que par les teams.
Ouais. Ok. Alors du coup, c'est une question qui est pas hyper précise pour toi, mais vu que tu traites sans doute avec la personne concernée chez Oka, ou que tu vas pouvoir en avoir un idéal, tu vas pouvoir me dire que fait un team manager au quotidien, Julien?
Je dirais au quotidien, il essaye de s'assurer que d'un côté, les athlètes sont dans des bonnes conditions pour atteindre leurs objectifs, et d'ailleurs qu'ils ont été définis de manière correcte.
Ah,
Donc,
intéressant ça.
d'un point de vue d'échange sur le calendrier, sur le matériel, pour que les athlètes aient le matériel adapté à leur pratique, le plus performant possible. Et de l'autre côté, que les athlètes remplissent leurs engagements vis-à-vis de la marque d'un point de vue utilisation du dit matériel, visibilité à travers les différents réseaux de manière correcte, sans que ce soit du quantitatif avec des chiffres imposés, que ce soit d'ailleurs sur les courses ou sur les réseaux. Ce qu'il faut, c'est une présence juste, mais il n'y a pas de définition de cette présence juste.
Ah, on voit parfois pourtant sur des contrats, voilà, il faut faire deux postes par mois, un par semaine, des choses comme ça.
Bah ça, en fait, ça ne l'est pas sur les contrats OKA, mais il s'est défini comme quoi il doit y avoir une présence sur les réseaux, et même sur certains, si ça a été quantifié. Il n'y a personne qui est payé, quoi. J'espère en tout cas, qui est payé à compter les postes des athlètes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce soit sur les résultats, sur la présence, le ressenti de l'extérieur est toujours présent par les personnes qui gèrent les budgets de l'extérieur d'un point de vue plus général au niveau marketing. Parce que quand les contrats ou les budgets sont redemandés, s'il y en a certains qui sont complètement inconnus, c'est qu'ils n'ont pas fait le job de leur côté.
Ah oui, finalement, c'est du bon sens, on voit. Tu
C'est
dis, mais
ça, c'est
attendez, lui, je le connais pas.
donc je ne vais pas relancer un contrat pour quelqu'un qu'on n'a pas vu exister pendant quelques années. Après, si c'est 6 mois, 1 an où la personne n'a pas existé, des fois il y a des raisons et il y a toujours eu la volonté pas de donner une seconde chance, mais d'accepter que des personnes puissent être blessées pendant 6 mois. Et pendant cette période-là, de 6 mois, de 1 an, c'est sûr que la communication va être différente parce qu'on n'a pas forcément envie de communiquer quand on n'est pas bien physiquement.
Oui, c'est vrai que Oka garde ses athlètes assez longtemps, hein, en général. Même je... bon, oui, il y en a de temps en temps qui partent, mais après avoir fait plusieurs années. Hein, donc c'est vrai que c'est quand même assez bien fait.
Ben c'est la volonté de fidéliser. Après, malheureusement, les budgets n'étant pas illimités, il faut faire des choix parce que si on veut renouveler et valoriser certains, c'est qu'il y a des personnes qui doivent malheureusement quitter l'aventure.
Alors, tu parlais de la définition des objectifs, ça c'est marrant parce que tout le monde ne l'a pas abordé. Parfois, l'athlète, voilà, il choisit sa saison. Alors, des fois, c'est judicieux, des fois, ça l'est un petit peu moins. Donc, chez Oka, en fait, l'athlète doit déterminer à l'avance et prévenir tout le monde de ce qu'il va faire. Enfin, dans les grands objectifs, hein, bien sûr.
Oui,
Et
tout à fait.
puis, pardon, est-ce qu'en fin d'année, on fait un bilan?
En fait, le bilan, il est fait indirectement en lien avec le contrat, avec les grilles de primes qui sont définies par la marque. Et du coup, en fait, sans imposer des courses, les athlètes comprennent vite en fait l'intérêt de la marque sur certains événements par rapport aux primes qui sont données aux athlètes. Et donc, du coup, le bilan en fin d'année, il est vite vu. Si la personne a été présente sur ses objectifs, c'est quantifié et c'est même chiffré, du coup.
Ah oui, effectivement, ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais.
Ouais.
Et du coup, ça évite que tu aies un athlète qui te parle du travail à côté de chez ses parents comme son objectif majeur fin juillet, quoi.
Voilà. Et ça, c'est sûr que on est confronté, comme beaucoup, aux personnes et à certains athlètes trop passionnés par la course à pied et qui ont du mal à refuser certaines invitations et qui vont se mettre la petite course de village avant l'objectif. Ils vont être surforts à leur course de préparation et qui vont se passer à travers l'objectif parce que blessure ou fatigue liée à ces courses de préparation. Et ça, des fois, on le découvre malheureusement trop tard après la course de prépa. Et ça, c'est bien dommage de ne pas avoir des fois ces échanges-là. Ouais.
Ah oui, alors, tiens, c'est intéressant ça aussi ce que tu dis, parce que les athlètes de l'équipe de France, là, admettons, telle ou telle personne va être sélectionnée pour faire les Europes à Annecy, Et il me semble que quand tu es sélectionné par l'équipe de France, tu dois t'engager à ne pas courir dans le mois avant l'épreuve.
Ouais, c'est le cas pour les championnats du monde, c'était déjà le cas les autres années. Et donc là, c'est contractualisé avec une sélection. Après, en trail, ça n'a jamais été fait. Typiquement, quelqu'un qui s'engage sur un UTMB, on ne peut pas lui empêcher, d'un point de quoi, à l'heure actuelle, d'un point de vue contractuel, d'aller faire Sierre-Zinal. Après, il y en a qui l'ont démontré, ils peuvent gagner Sierre-Zinal et gagner l'UTMB après. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en est capable. Et c'est sûr que la dernière course de prépa est pour moi vraiment un enjeu très à risque. Et mettre une règle pour tout le monde, c'est pas possible.
Hey.
Après, c'est le bon sens de l'athlète et de son coach. Mais des fois.
Mais vous pouvez pas mettre de règles parce que vous avez l'épouvantail dans vos rangs. C'est Ludo Pommeret qui fait un 70 km la semaine avant l'UTMB et qui fait cinquième de l'UTMB.
Ouais, peut-être pas cette année. Non, maintenant, Ludo, il arrive
Si,
à peu
il
près.
était allé à Valoire, tu sais, il avait fait. Alors,
Ah
c'était
oui.
en deux étapes, hein, c'était en deux étapes.
Tout à fait. Après, voilà, et là, on est sur un cas vraiment atypique de Ludo. Et d'ailleurs, c'est le seul qui avait pu faire la Diag avant les championnats du monde en Thaïlande. Hein. Il
Ah
avait une
oui.
des. Et donc, non, mais voilà, on est sur des cas atypiques. C'est son fonctionnement à Ludo. Après, jusqu'à présent, ça a très souvent fonctionné. Des fois, ça lui a peut-être porté préjudice, mais c'est bien pour ça que c'est difficile de mettre des règles.
Ok, Julien, t'as combien d'athlètes dans le Team Europe au cas? Alors ça, c'est pas ça, ça nous saute pas aux yeux quand on cherche un peu sur Internet.
Bah, moi, je suis en lien à peu près avec 25 athlètes.
Ah oui, quand même.
Mais en fait, des athlètes en contrat OKA en trail en Europe, il y en a quasiment 50. Et dont en fait une partie qui est sur on va dire, des contrats un peu plus simples, plus petits, et qui du coup se gèrent un peu plus de manière autonome.
Ouais, ok, ouais, ils ont pas besoin de toi parce que c'est pas des choses très très conséquentes.
Voilà. Après, pour faire simple, ordre de grandeur, OKA en Europe, c'est 150 athlètes, c'est 50 en trail à peu près, 50 en route et 50 en triathlon.
Ah oui, quand même.
Et donc, voilà, ça fait quand même, bah, ça fait vite du monde. Ouais.
Ouais, ça fait vite du monde. Et les 50 trailers de Hoka sont conviés dans les chalets lors de l'UTMB, par exemple?
Non, bah en fait. Sur les chalets de l'UTMB, c'est encore plus complexe parce que ces chalets de l'UTMB, ils sont ouverts aux athlètes OKA de manière globale, en fait, avec les Asiatiques, les Américains.
Ah oui.
Donc là, cette année, ouais, c'était 20 ou 25 athlètes qui étaient logés dans des chalets pour l'UTMB.
Européen.
Internationaux.
Ah oui, donc ouais, donc très très peu quoi. Parce que
Voilà. Bah,
au
après,
niveau
ils sont pas tous présents et. Après, c'est des choix de fonctionnement. Je ne sais pas comment fonctionnent toutes les autres équipes, mais bah, des athlètes qui viennent en famille, on ne va pas loger une famille avec le mari ou la femme et les trois gamins, quoi. C'est un peu compliqué, après, ingérable au niveau de la vie dans le chalet. Donc après, ça fait qu'il y a des athlètes qui vont prendre leur logement de leur côté.
Ouais. Alors avec 25 athlètes européens dont tu t'occupes, je pense que de tous ceux que j'interviewe, enfin que je regarde, à mon avis, vous allez être concurrencé peut-être par Brooks, mais je suis pas sûr quand même. Tu dois être celui qui en a le plus.
Mais peut-être,
Que.
j'en ai
Hein?
peut-être plus, mais après, avec une relation, si tu veux, qui est, comme je le disais en préambule, qui n'est pas de team manager. Donc, c'est de coordinateur. Donc, le lien, moi, je suis en support pour les athlètes et pour la marque. Et du coup, il y a, au niveau de certains athlètes, où quand ça fonctionne bien, que c'est linéaire, bah, en fait, des fois, il y a quasiment, entre guillemets, pas grand-chose ou rien à faire.
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple, par exemple, de peut-être un problème que tu as dû régler avec un athlète et une marque ou une
Ah
aide que tu as dû apporter?
bah, on est souvent sur des problématiques très terre à terre, hein, de dotation, de besoin de chaussures spécifiques, de problèmes de facturation, de problèmes administratifs. Voilà, c'est des
Ah
choses relativement simples et en su, quoi, simples. sur le papier pour les résoudre. Des fois, c'est un sacré bazar. Mais voilà, et après, il y a aussi, avec les années et la connaissance des organisations, souvent de l'inscription de dernière minute sur des courses qui sont sold out depuis 3 mois, ça aussi, ça prend pas mal du temps. Mais
Ah là, tu interviens?
ouais, bah bien sûr, parce que du coup, là, j'ai pas pu faire ça, j'aimerais bien aller là-bas, tu connais pas. Donc, de contacter les organisateurs pour récupérer un dossard, ou de passer par le partenaire, par OCA, par les autres services de OCA qui sont partenaires des cours sur circuit UTMB. Donc, ça fait partie des demandes et des choses à réaliser. Ouais.
Ah, effectivement, un peu de boulot là pour arriver à contacter au bout de la chaîne. Ouais.
C'est ça.
Et
Et
puis
bien, c'est là que.
pour la facturation, je veux bien te croire parce que chez Altra, par exemple, on utilise une plateforme, donc ça peut être pour rembourser des frais de route, pour un montant annuel ou des choses comme ça. Et il faut prendre des cours pour y arriver. Hein. C'est vraiment très très compliqué.
Ouais, je pense que voilà, après, c'est toutes les marques, hein, quoi. OCA, quand c'était petit, c'était tout simple. Maintenant, bah, les services administratifs, c'est tout centralisé, donc c'est un peu plus gros. Donc, des fois, s'il manque une virgule ou quelque chose à la facture, bah, ça passe pas, quoi. Mais ce qui est normal dans la rigueur administrative demandée.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Moi, j'avais eu un problème d'adresse. J'avais mal compris où est-ce qu'il fallait l'écrire et j'ai mis une bonne semaine à comprendre où c'était en me connectant tous les jours et en essayant de réfléchir.
Ouais, mais bon, pour verser 1 million sur ton compte en Suisse, c'est sûr que l'adresse est importante.
Oui, bah oui, c'est pour ça. J'avais donné celle des Maldives. Ok, Julien, alors. Dans le Team OCA, ce qu'on voit un petit peu, c'est des athlètes qui utilisent, alors de moins en moins, mais d'autres marques. Bah, je vais reprendre l'exemple de Ludovic Pommeret, qui se promène avec des chaussettes Compressport. Du coup, ma question, c'est est-ce que le Team OCA, en fait, propose, lorsqu'un athlète intègre le team, lui dit, bah voilà, nous, en fait, on est matché avec les montres Garmin. Nous, on est matché avec les chaussettes Compressport, patati patata. Est-ce qu'il y a d'autres sponsors qui sont proposés à un athlète qui intégrerait le Team OCA?
Pas du tout à l'heure actuelle. En fait, ce qui est sur l'évolution des contrats avec OCA, maintenant, OCA signe des athlètes, ils appellent ça tête à pied, donc vraiment des chaussures à la casquette, et mais qui laissent juste de la latitude à l'athlète d'avoir des partenaires annexes compatibles, typiquement bah, pour de la contention, parce qu'OCA ne faisant pas de contention, OCA autorise ses athlètes à avoir un partenariat, que ce soit Compressport, BV Sport ou une autre marque de chaussettes. Sur les chaussettes et la contention, après, bah, propose aucune autre marque. Donc, il n'y a aucun deal avec d'autres marques. Après, les athlètes sont complètement libres au niveau nutrition, au niveau bâton, au niveau électronique. Chacun fait comme il le souhaite.
Est-ce que tu as un rôle là-dedans? Par exemple, un athlète va s'adresser à toi en disant, bah tiens, Julien, bah là, ça fait 2 ans que je suis avec OCA, c'est vachement sympa et tout. Est-ce que tu pourrais pas m'aider à négocier un partenariat nutrition? Est-ce que des fois tu les orientes un peu comme ça aussi?
Oui, bah ça, c'est quelque chose que je fais dans un rôle qui n'est pas du tout dans un rôle de manager de chez OCA, qui est plutôt dans un rôle de conseiller d'amis et de mise en relation avec différentes marques de par mon réseau de mes connaissances. Voilà, après, et dans l'autre sens, d'un point de vue contractuel, OCA étant leur partenaire principal, avant de signer un contrat avec une autre marque, ils sont obligés d'en informer OCA.
D'accord. Par exemple, demain, tu as un athlète, il va signer un contrat avec NAC pour de la
Et ben
nutrition.
voilà, il faut qu'il en informe OCA, qui va dire il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Mais d'un point de vue contractuel, c'est obligatoire. Pour éviter des problématiques de partenaires un peu ambivalents qui pourraient poser problème, quoi. Et donc, c'est juste pour prévenir. Mais ça, en général, bien.
Alors, tiens, je reviens sur une des questions du début. Il y a quand même quelque chose que tu as vu en tant qu'évolution, c'est qu'au début, OCA ne faisait pas du tout de textile, ni de sac. Et aujourd'hui, par contre, comme tu l'as dit, bah, les athlètes sont équipés, des chaussures jusqu'à la casquette, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une des grosses évolutions, parce que c'est vrai que pour les textiles, Au début, c'était d'autres marques qui nous faisaient les textiles. Hein. Il y a eu Crazy, il y a eu Compress Sport, quoi, différentes marques. Et maintenant, c'est vraiment 100% Oka, avec l'évolution que maintenant, c'est même commercialisé, parce que ça fait que 2 ans qu'une partie des textiles Oka sont commercialisés. Et la même chose pour les sacs à dos, là où on est sur une période de transition, où certains athlètes avaient des contrats sacs à dos avec d'autres marques, mais la volonté, c'est dans les renouvellements de ces contrats que les athlètes soient obligés d'utiliser le sac Oka.
Ah, ça doit pas être facile hein, parce que les sacs, des fois, c'est dur de, de trouver un peu chaussure à son pied.
C'est ça, mais après, tout se fait dans la discussion, négociation. Si
Ouais.
un athlète préfère le sac aux chaussures, qu'il change de marque de chaussures plutôt que de changer de marque de sac hein, s'il ne peut pas courir avec un autre.
Tiens, bah, du coup, je m'inclus une question supplémentaire. Est-ce que ça t'est. Ça, c'est une question que je réserve à Salomon parce que j'ai un exemple en tête. Est-ce que c'est déjà arrivé que finalement vous pouviez pas signer un athlète parce que il s'est soit il s'est pas fait aux chaussures, soit il s'est pas fait bah, par exemple au sac ou à autre chose que vous proposiez qui était obligatoire?
J'aurais tendance à dire que oui, ça s'est fait plusieurs fois et tant mieux. Sur des discussions vraiment en préambule, où des athlètes ont testé le matériel, et on était principalement sur les chaussures, et c'était des athlètes qui faisaient du court, mais c'était il y a quelques années où en fait il n'y avait pas vraiment de réponse dans la gamme à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très intelligent que la personne dise, là. Avec ce modèle-là, je me sens pas complètement en confiance. Et là, moi, pour moi, ça prouve l'intelligence de l'athlète. Parce que l'athlète qui signe pour un chèque, pour moi, c'est juste dommage.
Ouais, après, il passe toute l'année à essayer de faire des pseudo proto, ouais, c'est ridicule.
Ouais, pour râler sur la chaussure en disant qu'il est passé à travers sa carrière parce qu'il n'avait pas les bonnes chaussures, personne
Aïe.
n'y gagne, ni l'athlète, ni la marque. Donc, non, non, et c'est arrivé. C'est arrivé quelques fois, mais des fois c'est arrivé aussi par rapport à des sacs ou autres que des personnes après à vouloir tout renégocier l'ensemble deviennent un peu trop gourmands aussi. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que ça passe pas.
C'est toujours un peu dans les deux sens. Ok. Question qui s'adressait un petit peu plus à des plus petits teams, parce que toi, c'est vrai qu'on est sur beaucoup de professionnels quand même. Au sein des 25 athlètes que tu coordonnes là, est-ce qu'il y en a qui sont complètement professionnels? Il me semble que oui. Sinon, est-ce que, en plus de porter les chaussures, les vêtements, donc j'imagine qu'ils ont une dotation conséquente pour les avoir à l'année, est-ce qu'on a des semi-professionnels? Tu vois, ça, c'est ce qu'on avait beaucoup chez Scott, par exemple. Qu'est-ce que c'est, en gros, les contrats, sans donner aucun montant, hein, bien sûr, l'idée n'est pas de savoir qui gagne quoi.
Mais globalement, chez Oka, des vraiment professionnels, il y a quelques jeunes en fait qui font le choix de vivre de leur passion, mais plus par une vie simple que par des très gros contrats. Donc, qui à côté, du coup, peu de charges, et donc ça fonctionne. Mais globalement, la majorité garde une autre activité professionnelle à côté à l'heure actuelle, parmi les contrats les plus importants.
Et il me semble, bon, je pense pas que ce soit le contrat le plus important, mais justement, je retourne sur mon exemple, Ludovic Pommeret. Il a diminué un petit peu ses heures de travail grâce justement à un contrat Oka qui a pu évoluer, c'est ça?
Voilà, mais en fait, là, on retrouve la majorité des athlètes Oka qui vont être au niveau professionnel passés à 80% ou à mi-temps. Et là, c'est du coup une majorité des athlètes qui a pu se dégager au moins à 80% pour justement prendre des congés, s'entraîner un peu mieux, et certains jusqu'à du mi-temps. Et voilà. Et Ludo en fait partie, Thibaut Garrivi en fait partie aussi,
Oui, exact.
Audrey Tanguy, pareil. Quoi, je pense que je pourrais lister là une majorité des effectifs qui a pu se dégager un petit peu de temps au niveau professionnel grâce à ces contrats.
Ah oui, pourtant Audrey, elle est dans la fonction publique, elle est enseignante, ça devait pas être gagné d'avance.
Non, mais avec le titre de championne du monde, après elle est passée sur les listes des athlètes de haut niveau.
Ah
Donc
oui.
ça permet d'avoir un dégagement de temps pour s'entraîner. Ça, c'est chouette.
Ouais, ok. Et parmi les athlètes, bah non, du coup, c'est pas ceux que tu gères. Mais il y en a qui ont rien du tout, par exemple, qui sont intégrés de Timoca, mais voilà, c'est une dotation matérielle.
Il y en a un petit peu, oui. Mais ça fait partie justement des évolutions où il y a un gros travail qui est en cours justement pour la restructuration, pour gérer toutes ces personnes-là. Parce qu'après, il y a ces personnes-là, il y a aussi des contrats avec les magasins où la marque donne des dotations à des magasins et les magasins vont équiper des athlètes. Et ça, des fois, on n'a même pas forcément la liste de ces athlètes-là qui sont équipés indirectement par aucun.
Ah ouais, peut-être ce que tu veux dire, c'est que ça, je vais pas dire ça nuit à la marque parce qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, mais ça embrouille l'esprit du trailer moyen qui va voir quelqu'un estampillé au cas, puis il sait pas s'il est dans le team, si ceci, si cela.
Là-dessus, il y a eu un travail qui est fait depuis maintenant deux années.
Ouais.
C'est que justement, en fait, il y a le textile qui est commercialisé par Oka qui va être donné justement à ces, on pourrait définir ça comme des ambassadeurs. Et après, les tenues de course vraiment des athlètes du team n'étant pas commercialisées, donc elles sont
Ah.
juste portées par les athlètes. Donc au niveau visuel, déjà, l'identité permet de rendre les choses un peu plus claires. Parce que c'est vrai que ça m'est eu arrivé il y a 4-5 ans de me retrouver au départ d'une course avec un gars à côté tout habillé en Oka. Bah, je ne savais pas qui c'était.
Oui.
Et c'est toujours un peu, c'était pas évident, parce que moi je recevais des mails de personnes, j'ai fait le trail du jambon je sais pas où, j'ai fini largement devant un gars du team Oka dont je connaissais pas le nom, donc moi aussi j'ai ma place dans le team. Ouais, peut-être.
Alors, garde ces anecdotes pour après, la question arrive. ouais, ok, ouais, bah, du coup, j'en ai terminé avec celle-là. Quel est ton avis? Bon, bah, c'est pas ton argent, donc tu vas me dire, je m'en fiche. Quel est ton avis sur le fait de donner de l'argent à quoi? Parce que toi, Julien, bah, tu cours depuis longtemps. Bah, tes victoires au Grand Raid, c'est autour de 2010, donc on va être sur bientôt 15 ans de haut niveau dans le trail et dans l'ultra-trail, donc t'as tout vu, presque. Du coup, ouais, quel est ton avis sur l'évolution un peu de ces contrats? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt une bonne chose? Est-ce que tu trouves que finalement ça a été mauvais?
Non, bah, quoi, mon point de vue, je pense que l'évolution, elle va dans le bon sens, parce qu'on est sur des athlètes qui professionnalisent en tout cas leur activité, leur entraînement, leur pratique. Donc en face de ça, je pense que ça mérite juste rémunération. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas encore au niveau où les athlètes devraient être rémunérés, mais on y arrive petit à petit. Donc ça, c'est intéressant, quoi. À partir du moment où on sera sur des athlètes qui peuvent réellement vivre de leur sport et de leur pratique, on sera, je pense, on sera au bon niveau. Après, c'est pas nécessaire de gagner 3 millions par an, quoi, parce que là, on part dans d'autres dérives, mais de pouvoir vivre correctement et décemment de sa pratique, ça me paraît bien. Donc l'évolution, elle est bonne. Et je pense qu'on n'est pas loin de s'approcher de valeurs de contrat qui commencent à être intéressantes. Et on verra bien, je pense, dans quelques années, quand on aura des teams réellement professionnels. Et quand ils vont être réellement professionnels, il va falloir qu'ils se structurent un peu plus. Il y a très peu de teams, il y en a quelques-uns hein, en France, hein, mais qui ont des salariés pour gérer les athlètes, pour les encadrer, pour les aider sur les événements. Nous, à l'heure actuelle, on est encore du sport amateur. Ou c'est nos proches qui nous font les ravitaux, ou voilà quoi. Il n'y a pas de staff médical, il n'y a pas de structure physique. Mais je pense que petit à petit, on va s'y approcher de ce haut niveau, et je trouve ça chouette. Mais en parallèle, bah, comme toute évolution, quand il y a plus d'argent et de structuration, va falloir contrôler tout ça pour pas qu'il y ait de dérives liées notamment à triches diverses et variées dans le dopage.
Eh oui, ben on a vu, tiens, récemment, quelques athlètes français, là, une douzaine, qui vont être suivis par l'AFLD ou qui sont susceptibles d'être suivis par l'AFLD, j'ai pas compris la nuance.
J'ai vu la sortie de Mathieu Blanchard là-dessus, oui.
Oui,
Après.
y a Nico, il y a Beignat, il y a Blandine, il y a Thibaut Barognan, oui, il y en a une dizaine. Ouais.
Ouais. Donc ça, je trouve que c'est très bien, mais il ne faut pas non plus qu'on se retrouve sur un truc à deux niveaux où tu as les athlètes français qui sont un peu suivis
Ouais.
et les athlètes de d'autres pays qui refusent les contrôles tout court. Donc il faudrait qu'il y ait un peu voilà, de parité là-dessus, mais bon, ça c'est. On
Après,
verra bien.
à mon sens, ils se tirent une balle dans le pied, hein, ceux qui refusent un peu les contrôles ou quoi, parce qu'à côté, tu as quelqu'un qui affiche sa probité, enfin en tout cas le maximum qu'il puisse faire, Et puis, si à côté, tu en as un qui affiche son obstination à ne pas se faire contrôler, l'avis du public va vite pencher pour l'un ou pour l'autre.
Faut juste que le public soit au courant
C'est
et
vrai.
par secret professionnel ou je sais pas quoi, le public ne le sera pas forcément au courant que la personne refuse tous les contrôles.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est bien l'anonymat, mais des fois, c'est chiant.
Voilà, mais bon, c'est ouais. Après, d'afficher toutes les AUT, des fois, ça mettrait les gens un peu plus mal à l'aise par rapport à leurs AUT aussi.
Oui,
Mais
bah oui, parce
on
que de
peut
base, c'est pour pallier à une maladie, effectivement.
Et voilà, ouais. Mais c'est rigolo des fois les malades qui gagnent des grandes courses.
Ouais, c'est parce que c'est des petites maladies.
Ouais,
J'avais eu une AUT, moi, à 16 ans, hein, pour asthme.
ben voilà, et tu t'es
Alors,
chargé d'un grand cours.
attends, ce qui est étonnant, Julien, c'est que plus j'ai fait du sport, plus l'asthme a disparu.
Ouais. Ouais, et plus tu prenais des corticoïdes et de la Ventoline.
Non, justement, j'avais arrêté après. Parce que j'étais étudiant, j'oubliais toujours mon truc chez mes parents.
Ouais. Non, mais ça, il n'y a pas de solution. Quoi, il n'y a pas de solution. C'est un sujet qui est très complexe, hein, parce que des malades, il y a des vrais malades.
Tu t'es répondu un tout petit peu au début de la question, mais quand les athlètes accèdent justement à des contrats un petit peu plus gros, est-ce que, alors c'est peut-être pas tout à fait ton rôle, mais est-ce que du coup la marque attend un peu plus de professionnalisme de la part de l'athlète dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que finalement certains athlètes ont pu réduire leur temps de travail pour augmenter leur temps dédié au sport. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment attendu quand la marque leur donne de l'argent?
Bien sûr, dans le quoi, oui et non. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est pas contractualisé, mais s'il y a évolution de contrat, c'est qu'il y a des attentes qui vont être plus importantes. Et de la même manière, l'athlète se doit d'être un peu plus disponible aussi pour la marque, pour des médias, pour différentes choses. Se doit de d'être dans une progression. Après, naturellement, l'athlète, il signe un contrat de 2 ans, 3 ans. Si la progression n'a pas lieu au renouvellement, il n'y aura plus de réévaluation. Ça va être peut-être une négociation à la baisse parce que les objectifs auront été partiellement ou pas atteints. Mais si le job est fait et qu'on est sur une progression linéaire, bah ça fonctionne bien et c'est ce qu'on souhaite à tous d'ailleurs.
Ouais. Ok. Là, en ce moment, on est en automne. On va bientôt arriver à l'hiver. Bon, c'est le 21 décembre, hein, l'hiver, ça change pas. C'est un petit peu le turnover, puisque c'est la période où tout le monde est relativement calme. On change de team, on change pas de team, on fait évoluer son contrat, etc., etc. Au sein de Oka, est-ce qu'on a pas mal de changements? Qu'est-ce qui se passe dans cette période, est-ce que toi tu aides des athlètes peut-être à renégocier avec la marque ou d'autres à être inclus dans le team avec ton œil un peu d'homme de terrain hein, parce que tu fais les courses hein, déjà, tu es athlète toi aussi et du coup tu côtoies peut-être un peu plus de monde que le gars qui gère les athlètes dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe en ce moment un peu au sein du team?
Tout à fait, c'est une période qui commence même en septembre, hein, sur de l'anticipation, sur la proposition d'athlètes, sur des renouvellements, justement, des orientations de renouvellement. Donc ça, voilà, c'est des discussions qui ont lieu de septembre et ça se poursuit jusqu'aux signatures qui, des fois, tardent sur janvier-février. Ouais.
Bon, on vire qui cette année?
Oh, mais on vire tout le monde. C'est simple comme ça.
Ok,
Non,
bon, on verra.
non, il y a personne qui est vraiment viré. Après, il y a des contrats qui sont pas renouvelés. On va dire les choses différemment.
Et d'ailleurs, c'est toujours du 1er janvier au 31 décembre les contrats ou il y a des trucs un peu différents?
Non, bah là, c'est après, c'est d'un point de vue institutionnel, légal, en fait, c'est des contrats qui, voilà, sont de 1er janvier, 31 décembre.
Ouais, parce que en fait, je te dis ça, j'ai interviewé un autre team manager et il me disait j'ai recruté un coureur qui est assez bon, je suis assez fier de moi pour mon recrutement, mais je peux pas t'en parler parce qu'en fait, le contrat démarre le 1er janvier, quoi.
Ouais, et là, je pense que c'est là que ça va être tout. Bah, c'est le jeu de la communication, hein. C'est tous les ans, c'est la même chose, hein. Là, ils vont poster le 31 décembre, merci à telle marque, à un ancien partenaire, et le 1er janvier, ils vont poster merci à mon nouveau partenaire.
Allez.
Et c'est le jeu, parce que bah, l'engagement, bah, il est tenu jusqu'au 31 décembre en général avec le partenaire précédent et avec le nouveau. Ça attaque au 1er janvier. Il y a des fois, quelques athlètes qui sont libérés en cours d'année pour des raisons de dépôt de bilan de team, mais ça reste relativement rare.
Ah oui, comme Raitorer dernièrement avec Dynamo là, en Italie.
Ah bah, tout le team Dynamo qui s'est retrouvé libre fin août, ou fin juillet d'ailleurs, fin août ou
Ouais.
fin juillet.
Ah, ça m'a fait penser à l'équipe féminine de vélo là qui a pas pu voir le jour avec Jérôme Pinault. Bon.
Ouais.
Ah ben bah, l'an passé, la team Tollefson, il a oublié de dire merci à Oka pour toutes ces longues années, mais après il a publié une photo pour dire merci à Kraft pour son intégration.
Ouais, bah après, c'est voilà, le cas de team, je ne sais pas comment s'est passée la relation, la fin de l'histoire avec Oka, mais après, des fois, ça ne se passe pas très bien. Hein, faut pas, y a, c'est des relations de personnes. Après, moi, je pars du principe que s'il y a eu des années où il y a eu des échanges, un partenariat, c'est que globalement, ça s'est bien passé, même si ça s'est mal fini. Donc, faut faire une belle note.
Ouais, bon, à sa décharge, il n'avait pas fait beaucoup de belles courses quand même dernièrement, donc ça on le voyait venir, quoi.
Ouais, c'est possible.
Alors, tiens, un autre truc où toi, homme de terrain, tu vas pouvoir avoir un avis intéressant. Comment tu repères un jeune prometteur qui va du coup pouvoir être intégré au Team Oka où on se dit, waouh, lui, il va casser la baraque, il faut absolument qu'on le récupère avant qu'il devienne inaccessible. Ou peut-être un cadre déjà en place où tu te dis, tiens, lui, avec la marque qu'il a actuellement, je sens que c'est pas top top. Tiens, je vais le mettre un peu en relation avec Oka pour voir. Est-ce que tu navigues un peu dans ces eaux-là?
Bah l'objectif en fait pour voir émerger des jeunes talents, par défaut ils sont jeunes, donc c'est sur des catégories de courses où les distances sont moindres, donc faut aller voir un peu sur ces distances un peu plus courtes, et c'est aussi le but de la mise en place du team espoir qui est le team Oka Buff en fait, hein, qui permet de
Ah oui,
mettre le pied
exact.
à l'étrier de pas mal de jeunes. Et qui nous sert bah, de vivier, quoi. Avec bah, Sylvia Cachard vient de là, Baptiste Fourmont, quoi. Il y en a eu plus. Et pour, quoi, en tout cas, mon avis, et j'espère que Oka le validera encore pendant pas mal d'années, de pouvoir fonctionner comme ça, c'est la meilleure solution, quoi. C'est d'accompagner des jeunes dès le départ pour les voir et les faire grandir avec nous.
Et alors là, je rebondis sur une question que tu avais commencé à aborder tout à l'heure de manière innocente. Et toi, en tant qu'un petit peu référent français au cas, combien de demandes justement tu reçois de gens qui veulent intégrer le team? Là, tu nous parlais, ouais, j'ai battu machin du team Oka sur une course, je mérite d'être dans le team.
Après, ça dépend les périodes. Après, c'est sûr que septembre-octobre, j'ai dû recevoir peut-être une vingtaine, une trentaine de demandes. Mais
Ah, quand même!
après, avec énormément de demandes qui étaient très légitimes, hein,
Ah, d'accord.
de très bons athlètes. Après, c'est des problèmes. On ne peut pas à la fois prendre tout le monde. Il faut que les valeurs collent. Me conviennent déjà avant que je les propose à la marque. C'est vrai que je fais un peu le filtre des fois, peut-être à tort, mais je considère que c'est mon rôle. Mais après, au quotidien, toute l'année, ouais, on va dire c'est 4-5, 4-5 par mois. Et après, c'est souvent des personnes qui lancent un pavé dans la mare en se disant j'ai tel projet, je fais ça, j'aimerais bien être soutenu par la marque. Et à la rigueur, ils ont bien raison d'essayer, hein, parce que des fois, sur un malentendu, ça peut marcher. Et moi, j'ai vu arriver des profils super intéressants comme ça, et des personnes qui ont été intégrées. Parce que des fois, on creuse un peu, on se dit, ah là, ça, c'est pas mal, et on met la personne dans l'histoire avec une paire de chaussures ou deux pour lui faire tester. Et puis, des fois, on a des très bonnes surprises aussi.
Ok. Ah, c'est intéressant, tu es un des premiers qui me dit qu'il reçoit beaucoup de demandes de gens intéressants et pas uniquement dès qu'on a vu de la lumière, quoi.
Je pense que les Oka a une visibilité, en tout cas de l'extérieur, comme un gros team qui a des moyens, peut-être.
Ouais.
Je pense que tu as des athlètes qui sont dans d'autres teams où ils ont l'impression d'avoir moins de moyens. Ils se disent, peut-être que chez Oka, j'aurai le double. Donc, mais voilà, après, c'est pas magique.
Ouais, et puis vu que vous êtes nombreux, on peut pas non plus faire des miracles.
Non, et après, quand on a certains athlètes sur un format, et voilà, si on a déjà un, deux, trois athlètes sur un format, des athlètes de qualité, c'est pas forcément nécessaire d'étoffer à sur ce format-là. Oui.
Ok. Ça aussi, tout à l'heure, tu l'as abordé en parlant des teams. Est-ce que vous avez des professionnels qui, bon, pas qui sont salariés par le team, parce qu'on n'en est pas encore là, mais qui interviennent régulièrement dans le team? Par exemple, ça peut être un diététicien qui s'occupe de certains coureurs, un kiné du team Oka, un ostéo, des entraîneurs communs.
Globalement, je vais répondre non. Mais oui, en fait, c'est-à-dire sur les événements où il y a beaucoup d'athlètes, typiquement sur le stage estival qu'on a fait cette année, ou sur la semaine de l'UTMB, Oka à chaque fois a mis à disposition un ou deux kinés présents pour les athlètes pour leur permettre de bien se préparer ou de bien récupérer juste avant l'UTMB. Donc voilà, et ça, pour l'instant, ça s'arrête là. Et ça a toujours été la question, est-ce qu'il y aurait un coach au cas? Je pense que c'est plus simple de donner à l'athlète une enveloppe pour ses frais de préparation, que ce soit déplacement, entraînement, et qu'il paye son propre coach. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes envers un coach. Et un coach de team, pour moi, ce serait presque une erreur. Vaut mieux aller vers un coach qu'on a choisi plutôt qu'un coach qu'on nous a imposé.
Ouais, surtout en trail où finalement on n'a pas encore la recette qui fait
Non,
que on
on n'a
obtient
pas
le
la...
meilleur coureur.
Et on n'est pas sur les mêmes objectifs aussi. Donc, on n'est
Ouais.
pas comme... On pourrait l'avoir sur une équipe à vélo où justement il y a des objectifs vraiment de l'équipe en commun. Donc, c'est important de s'entraîner ensemble pour courir ensemble parce qu'il y a la cohésion de l'équipe qui est beaucoup plus importante à vélo. À pied, on n'est pas là-dedans. Ensuite, même au niveau staff médical, la grosse problématique, c'est que si on parle juste de la France, on a beau être... assez nombreux, on va dire, sur le côté des Savoies, mais il y a des personnes sur toute la France. Donc, de mettre à disposition un staff qui est basé à Annecy ou qui est basé à Paris, si à chaque fois qu'on veut voir un kiné ou un médecin, il faut faire 3 ou 5 heures de route parce que c'est le médecin du team ou le kiné du team, ça a pas de sens.
Ouais, bien sûr. Ouais. Des fois, on imagine des choses. Mais même en cycliste professionnel, alors des fois, c'est un problème parce qu'il y a tel athlète, il a son ostéo, puis finalement, la direction de l'équipe n'est pas tout à fait d'accord qu'il se fasse tripoter par son ostéo personnel. Donc, même dans des sports très professionnels, c'est délicat, ouais, cette histoire de personnification de l'entraînement ou du bien-être de l'athlète, je sais pas comment on pourrait dire.
Ouais, c'est ça, c'est...
Tiens, question un peu amusante là. On est sur la fin. Demain, le Team Oka double son budget. Voilà, par un miracle, je ne sais pas. Le budget double. Qu'est-ce qu'ils font?
Je pense qu'il y aurait vraiment peut-être du recrutement, hein, pour déjà, je pense que ce serait peut-être la possibilité de recruter et de valoriser un peu mieux certains contrats. Donc peut-être un ou deux recrutements et surtout la mise à niveau pour ce qui permettrait de s'assurer de garder certains athlètes sans qu'il y ait trop de discussions et de les mettre un peu plus dans le confort. Et je pense qu'il y aurait ça et des training camps en fait un peu plus importants, je pense, un peu plus réguliers.
Ok, ouais. Ah, intéressant. Là aussi, j'ai pas toujours les mêmes réponses. Ouais. Et dernière petite question. Le Team Oka, il fonctionne. Bon, c'est que Oka, hein, il n'y a pas d'autres partenaires comme on peut le voir dans notre team. Et du coup, est-ce qu'il y a un bilan en fin d'année avec la marque qui injecte l'argent en disant ah bah là, avec tel budget, on a pu faire ça, c'était bien? Ou en disant, bah tiens, en fait, les athlètes, ils n'ont pas été terribles, terribles, du coup, on n'a peut-être pas donné le même budget. Est-ce que toi, du coup, tu bascules dans un rôle encore un peu d'intermédiaire, en dialoguant avec la marque, en disant, bah ouais, mais en fait, peut-être là, il fallait peut-être plus de moyens. Est-ce qu'il y a une discussion comme ça à propos de ce qui a été mis en place et ce qu'on a eu comme résultat?
Non, globalement, c'est pas mon rôle par rapport à ça. Donc là, c'est géré directement De manière globale, et c'est des gros débats qui se finissent en ce moment, en fait, hein, pour définir les budgets pour l'année suivante, en fonction des objectifs, en fonction de ce qui a été fait l'année en cours.
Ok, ouais. Ah oui, c'est assez simple, ça va, ils sont pas trop regardants.
Bah, à la fois, ils sont pas trop regardants, mais c'est pas mon rôle, mais le collègue, justement, qui fait ça. Je pense qu'il se bat énormément tous les ans pour valider ses budgets, pour les conforter ou les consolider pour l'année suivante, justement en déposant ses résultats et la mise en avant de ce qui a bien été fait par l'ensemble des athlètes. Donc là, si, il y a un gros job à faire là-dessus, mais que je ne fais pas.
Ah d'accord. Ok. Ouais. Et bah écoute Julien, moi j'arrive au bout de mes questions. Est-ce que tu vois des choses un petit peu à rajouter que j'aurais pu un peu oublier, sur lesquelles tu aurais aimé que je te donne la parole?
Non, non, bah merci, parce que ça fait partie des thérapies. Des fois, ça fait du bien de parler de ce qu'on fait. On se rend compte qu'on fait des choses, donc c'est cool. Merci.
Ah bon, pourquoi tu avais l'impression de ne pas faire beaucoup?
Non, 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 mais c'est toujours intéressant de partager sur ce qu'on fait. Donc, bon, c'est cool. Pas grand-chose à rajouter.
Ben merci Julien, allez avant de te libérer. Donc je sais que tu es revenu de la Translanto où ça s'est pas très très bien passé avec nos Français. Donc un climat un peu dur. Du coup, tu vas pas en Thaïlande pour le Doi Inthanon. Quels vont être les objectifs pour Julien Chaurier en 2024? Parce que je sais que cette année, malheureusement, là, tu as chuté au Tour des Géants. C'était un projet prévu depuis plusieurs années. Est-ce que tu recommences l'an prochain?
Bah là, je suis aussi sur la période de réflexion. Donc, l'objectif principal du Tour des Géants, il est encore dans la tête. Donc, j'y retournerai. Mais la question, c'est est-ce que ce sera 2024 ou 2025? Est-ce que sauter un tour ne serait pas bien pour mieux le réussir? C'est vrai que avoir pas mal de personnes, des fois, qui insistent fortement pour réussir une course. Je me dis que c'est pas mal des fois de faire l'impasse une année pour pas la subir quand on y retourne, plutôt de décider d'y retourner, plutôt que de se dire tant que je l'ai pas fini, j'y retourne. Et là, ça peut devenir pesant.
Ah, intéressant.
Peut-être revenir sur des formats plus raisonnables.
Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Donc voilà.
Bon,
Mais
bah
bon.
merci Julien, en tout cas pour l'interview.
Eh ben, avec grand plaisir, et puis à très vite, Hugo.
Ouais, salut Julien.